Bonjour à tous. Il est midi passé de 30 secondes sur France Culture. Dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table, mais tout de suite, quelques titres du journal de 12h30 présentés par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Donald Trump, candidat naturel maintenant du Parti Républicain pour la présidentielle de novembre, il l'emporte hier dans l'Indiana. Son principal rival, le sénateur Ted Cruz, annonce qu'il suspend sa campagne. On en parle tout à l'heure avec Nadine Epstein et l'historien François Durper. Dans la périphérie d'Alep, de violents combats encore opposent des groupes rebelles aux forces du régime syrien qui essayent d'encercler les rebelles dans Alep. Les efforts diplomatiques s'intensifient pour tenter d'établir un cessez-le-feu. Les discussions sont prévues aujourd'hui à Berlin. François Hollande, comme en campagne, dans le cadre d'un colloque sur la gauche et le pouvoir organisé hier par la Fondation Jean Jaurès, le chef de l'État a bien sonné la mobilisation de son camp. Analyse et commentaires de Frédéric Seyss. Emmanuel Macron menace de légiférer sur la rémunération des grands patrons si le groupe Renault ne tire pas les conséquences du vote négatif des actionnaires sur la rémunération de Carlos Ghosn. Ce matin, le président du groupe socialiste Bruno Le Roux soutient que M. Ghosn doit renoncer à sa rémunération. Et puis on dira un mot de l'intervention des forces de l'ordre ce matin dans un lycée en travaux dans le nord-est de Paris pour évacuer les migrants qui l'occupent depuis deux semaines. Récit avec Catherine Dutu, l'invitée de la séquence interview, Françoise Verchère, présidente du comité des élus contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Voilà pour les titres. C'est à vous, Caroline, pour la Grande Table.
La première partie, tout d'abord, on va parler de ce sujet qui fait que quand on en parle, on ne parle pas du reste, de tout ce qui va mal dans le monde. Un sujet qui ne cesse de susciter de l'intérêt, comme toujours dans les périodes où les gens sont inquiets, car ça rassure, ça rassemble, ça parle au corps, ça donne du plaisir. Il y a là du partage, du théâtre, de la vérité, oui, mais aussi de la passion et dans toute passion, de la rudesse. Ce sujet, c'est la cuisine, vue par quelqu'un qui en a fait son métier, la restauration, et vu par quelqu'un qui raconte la vie d'un chef cuisinier. Vous allez tout de suite comprendre. Ces mots que je viens de citer, en les reprenant en partie, on vous les doit, Maëlys de Carangal, bonjour.
Bonjour.
À moins qu'on les doive à votre personnage, qui n'est pas vraiment un personnage, qui existe vraiment, qui est Mauro, dans ce livre que vous publiez dans la collection de Pierre Rosanvallon, Raconter la vie, aux éditions du Seuil, un livre intitulé Un chemin de table, table au pluriel, qui raconte le parcours de Mauro sur une dizaine d'années, entre 2004 et aujourd'hui, entre ses 20 ans et ses 30 ans. Mauro étant un cuisinier atypique et indépendant, on va évidemment revenir sur son parcours puisque c'est le sujet de cette rencontre que j'ai voulu aujourd'hui entre vous et une nouvelle icône de la gastronomie. C'est comme ça qu'on vous présente, Alexandre Gauthier, dans tous les articles que j'ai lus sur vous. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes un jeune chef cuisinier qui a un tout petit peu plus de 30 ans, qui cherchait à bousculer les codes et les conventions de ce milieu qu'est la restauration. Vous êtes le chef de la Grenouillère. La Grenouillère est à la Madeleine sous Montreuil, en plein nord de la France. La Grenouillère a une étoile au Michelin et vous avez été sacré cuisinier de l'année 2016 par le prestigieux Goemio. Ce qui est très impressionnant dans le livre de Maëlys de Carangal que vous avez lu, Alexandre Gauthier, plus impressionnant et peut-être le plus frappant, c'est que là où on parle toujours de la cuisine comme d'un lieu de plaisir, de vie, comme les mots que j'ai utilisés en reprenant ce qu'elle écrit dans Un chemin de table, ce livre montre aussi l'envers du décor, l'envers des fourneaux, montre finalement la réalité peut-être de ce métier. Comment l'avez-vous vécu, vous qui l'avez lu ?
Bah exactement comme vous le dites, c'est une vraie réalité. J'ai pris ce livre en pleine face, avec beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup de rudesse, parce que c'est la vie de tout jeune cuisinier qui démarre, la vérité de ses horaires, de cette tension, de cette envie d'excellence et de haut niveau, pour créer, pour dans certains restaurants, une émotion, quelque chose qui se passe en tous les cas à table, et ça que le client doive ressentir ou pas, mais en tous les cas c'est le travail. Mais voilà, cet effet de répétition, ce goût de d'être, ce goût et cette obligation de se renouveler, d'être présent et de saison après saison, jour après jour, service après service, plat après plat, être consciencieux et rigoureux, c'est la vraie vérité de ce métier. Et on y passe par là, on démarre. Et j'ai trouvé ça, j'étais très ému et en même temps très impressionné parce que Maïs a vraiment, voilà, dans le détail et dans le, bah c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que
le parcours de Mauro est représentatif parcours d'un.
On peut essayer de faire croire cuisinier. Chef cuisinier, oui. Quoi que ce soit, que c'est un métier rempli de bouquets de fleurs, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est un magnifique ascenseur social. C'est un métier qui est en vue et qui est rendu très sexy parce qu'en effet, que par rapport à des beaux discours, on peut. Par la cuisine, faire évoluer, pour ne pas dire changer le monde, mais tout ça a un prix, et le prix, c'est exactement ce que dit Mauro dans votre livre, c'est que la cuisine, ça prend tout le reste, quoi. Cuisine, ça, faut consacrer sa vie à la cuisine. Je considère que c'est un sacerdoce. C'est magnifique. C'est vrai que quand on le lit comme ça, j'hésiterais à le faire lire à mes équipes, parce qu'à un moment, quand on prend cette réalité de pleine face, on doute. Est-ce qu'on se trompe pas de chemin? Est-ce qu'on a raison de vivre cette vie-là? Mais bon, moi voilà, c'est la vie qui me rend heureux. J'ai un projet personnel avec des hommes, tout ça. Mais quand même, j'avoue que, alors je vais pas parler pour tous les autres cuisiniers, mais quand même, je pense qu'on a une vie qui est bien en marge de beaucoup de choses et socialement, affectivement, rapidement à la ramasse, vous voyez, parce que ce métier prend tout et il laisse peu de place à rien. Il est très chronophage.
Voilà, tout le livre de Maïlys de Kerangal est là, dans ce que vous venez de dire, Alexandre Gauthier. On va peut-être développer certains détails, mais avant cela, Maïlys de Kerangal, est-ce que vous saviez ce sur quoi vous alliez travailler? Est-ce que vous aviez, d'abord, vous connaissiez cet univers des fourneaux, et est-ce que vous aviez, en commençant à l'écrire, l'envie d'aller chercher cette réalité dure plutôt que de montrer l'autre côté, qui est plutôt celui que nous voyons, surtout quand on est ceux qui allons déjeuner ou dîner dans les restaurants de gastronomie? Comment avez-vous abordé ce travail au départ?
Alors, c'est un livre qui s'inscrit dans une collection qui a aussi pour projet de saisir, de sonder des lieux, des parcours ou de faire des portraits de tout ce qui a à voir avec une forme d'invisibilité. Alors évidemment, on pourrait se dire, mais au contraire, la cuisine, comme vient de le dire Alexandre Gauthier, est tout sauf invisible. C'est même devenu ces dernières années un lieu hyper visible et presque
avec multiplication d'émissions à la télévision, par exemple.
Il y a toutes les émissions de télé-réalité, et aussi on pourra en développer cela, mais l'idée que les cuisiniers sont devenus des personnages très importants du contemporain. Que ce sont des personnes qui sont presque des stars, en tout cas qui ont un statut que pouvaient avoir autrefois les rock stars ou peut-être les grands champions. D'ailleurs, je remarquais, et je trouve que c'est intéressant quand même de le noter, ils ont accès à certaines femmes auxquelles ils n'avaient pas forcément accès avant, des femmes célèbres. Voyez,
c'est comme des grands sportifs,
ils font la une des journaux People maintenant. Si on regarde bien, ils sont apparus très récemment à la une des journaux People. Et ça veut dire quelque chose, en tout cas, de la manière dont ils incarnent, dont ils catalysent un imaginaire social. Ils ont une place, ils occupent un espace qui n'a cessé de croître. Et moi, j'ai pensé à l'inverse, que c'était précisément parce que ces cuisines étaient devenues des studios de télévision, ou plutôt que les studios de télévision étaient transformés en cuisine, et que les cuisiniers étaient devenus ces personnages extrêmement en vue et visible, que ce sujet allait être intéressant, parce que comme on peut s'en douter, c'est souvent quand il y a des projecteurs aveuglants, ça c'est l'idée de Pasolini et de la survivance des Lucioles, mais quand il y a des projecteurs aveuglants qui sont portés sur une portion du monde, du réel. Finalement, c'est là où il y a quelque chose, un éblouissement qui nous empêche de voir la réalité. C'est-à-dire que plus c'est montré avec ces spots aveuglants de la télévision, peut-être plus cette réalité, elle devient fuyante. Et c'est vrai que ça restaurait l'idée d'aller approcher ce cuisinier plutôt via restituer sa parole, parce qu'il s'exprime dans ce texte, et puis m'attacher à son parcours, et en fait en essayant d'aller voir finalement dans les coulisses, en tout cas ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne perçoit pas quand on est attablé dans un restaurant, qui est toute cette vie des cuisines, bien que aujourd'hui dans le même esprit de mise en scène on commence à vitrer les cuisines.
À la Grenouillère, par exemple, chez Alexandre Gauthier, la cuisine est ouverte sur la salle, on peut la voir. C'est un choix de votre part, Alexandre Gauthier.
C'est plus que ça, c'est un équilibre entre la salle et la cuisine, parce que c'est deux équipes qui n'en font qu'une, déjà, et que je pense que c'est important d'exister, parce que j'ai la chance d'être à la campagne, donc j'ai de la place. J'avoue qu'à Paris, quand le cockpit de Mao est compliqué, mais je pense aussi qu'il est important, on passe notre vie dans ce métier. Moi, j'ai fait ce métier, j'ai vu mon père le faire, et je le fais, et j'essaie de le tenir, en sachant de comment je ne veux pas le vivre. Et c'est très beau livre jaune. Et un peu l'exemple de ce que je ne veux plus vivre, ne veux pas vivre, parce que ce métier doit être capable de réformer. Mais c'est un vrai sujet, c'est compliqué, parce que c'est un métier très corporatiste. Et que malgré tout, à la fin, à midi, il y a des clients, et à 20h ou à 19h, il y a des clients. Et donc malgré tout, il y a un chronomètre tout le temps qui se déroule. Et Mauro le vit au quotidien, il dit « je suis tout le temps en retard, je suis tout le temps à la bourre ». Mais c'est la vérité. On est tout le temps en train de courir après le temps, parce que les clients arrivent, que le poisson est pas arrivé à l'heure, que bon, c'est le jeu. Et moi j'ai eu la chance de rencontrer un architecte exceptionnel, qui a compris ce que je cherchais, Patrick Bouchain. Et avec Patrick, je lui ai dit que je voulais qu'on puisse travailler dans les mêmes conditions dans lesquelles on recevait notre clientèle. C'est-à-dire que les clients venaient dans un endroit et que souvent il y avait un côté belle salle, service, belle lumière. Et la cuisine était toujours blafarde, aseptisée, pour pas dire voilà, mes cuisines sont pas des rats de cave. Et j'ai refusé. Et je pense que pour parler d'émotion et de créativité, il faut être dans des bonnes conditions. Des conditions de travail, alors oui, on travaille beaucoup, oui, on travaille avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'envie, mais aussi beaucoup d'amour et de plaisir. C'est compliqué, hein, c'est des mots qu'on dit, mais c'est des mots qui n'empêchent pas que ça prend tout le reste. Mais voilà, et donc à la Grenouillère, voilà, on a une température lumineuse en cuisine qui est la même que celle de la salle. On a de l'espace. Ça fait partie de la chance que j'ai de la province. Mais voilà, en tous les cas, sans clients, il n'y a pas de cuisinier. Sans cuisinier, il n'y a pas de clients. Et voilà, on est...
Oui, il y a une espèce de restauration de l'égalité des statuts dans votre...
C'est important parce qu'il y a des mots qui sont quand même archaïques. On parle de cuisine, mais on peut parler de service. Le mot service vient de où, quand même, de servitude. Moi, avec Pascal, mon directeur, on accompagne nos clients. Alors, il n'y a pas de rond de jambe, il n'y a pas tout ça. On est juste sincère et on a envie qu'ils viennent passer un bon moment. Je dis toujours à mes équipes, on a quand même le plus beau métier du monde, quand même. Les gens, chez moi, réservent 3 mois à l'avance pour avoir une table. Ils se déplacent. Ils viennent des fois de très loin. Les hommes sont beaux, les femmes sont belles. Ils passent du temps à table. Ils payent une addition qui est conséquente. Et à la fin, ils repartent en disant merci et à bientôt. Je pense que c'est quand même... il y a peu de métiers qui sont comme ça. Et ça, quand même, je pense que ça peut être une drogue pour un cuisinier. Ça, c'est quand même quelque chose qui, d'un seul coup, on est conscient qu'on crée de l'émotion et du bonheur. Attention à quel prix. C'est toujours ça. Michel Bras était peut-être le premier chef à refuser qu'on l'appelle chef. Eh bien, Michel en cuisine, et que faire régner une tyrannie dans une cuisine avec de la brutalité... Pour parler d'émotion et de sensibilité, il y a un contresens juste évident.
La brutalité, la violence, non seulement du rythme du travail, mais aussi de ces relations entre les chefs cuistots et leurs commis, leurs salariés, on le voit vraiment très clairement, et avec une langue très particulière. Vous parlez de la langue, Alexandre Gauthier, dans le livre de Maïlys de Kerangal, évidemment, livre d'un écrivain, malgré tout. Vous utilisez tout ce vocabulaire lié à la cuisine devant et derrière le vocabulaire de la brigade. En effet, le vocabulaire martial, militaire, utilisé dans les cuisines, est restitué, mais avec cette idée que ça part de cette violence que les apprentis eux-mêmes, c'est ce que vous dit Mauro, une violence que les apprentis et les cuisiniers jugent normale parce que ça ferait partie de la loi du métier. Et il dit, Mauro, c'est presque le plus dur, ça, le plus violent pour lui, de voir que tout le monde considère que cette violence, cette brutalité, la dureté avec laquelle parfois les chefs parlent aux commis, le fait qu'on les embauche sur 70 heures par semaine à un SMIC de misère, qu'il n'ait aucun temps pour eux, eh ben c'est normal parce qu'on est obligé d'en passer par là.
Ouais, ça m'a beaucoup frappé. Et notamment l'exemple de cette espèce d'auto-contrainte. Par exemple, il est embauché à un moment dans un grand restaurant étoilé. L'embauche doit être à 8 heures. Il arrive à l'heure, à 8 heures. Et il voit que tout le monde est arrivé à 7 heures. Et qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Eh ben, il vient à 7 heures. Alors, en fait, c'est une histoire assez compliquée, cette histoire de violence. D'abord, bon, moi, j'ai assisté à des services. Après, c'est un monde que j'ai découvert. Donc, ce livre, il atteste aussi d'une forme de pénétration, en fait, de moment où moi j'ai rencontré ce monde, où j'ai pénétré ces cuisines, et souvent, d'ailleurs, comme j'aime le faire dans mon travail littéraire, c'est-à-dire, j'ai l'impression aussi que la façon de découvrir ou d'aller vers ces mondes inconnus est totalement articulée au désir d'écrire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je ne sais pas et que le livre va me faire connaître. Il y a une dimension comme ça dans mes livres et que j'ai encore retrouvé dans ce livre-là, puisque finalement la cuisine n'est pas un monde et c'est pas une culture. Je n'avais pas un intérêt particulier pour la cuisine. Ce qui m'a intéressée, c'était vraiment dans ce livre, c'est la manière dont finalement émerge et finalement sédimente une vocation qui ressort d'une passion.
Oui, vous parlez de vocation. En même temps, dès le début du livre, on voit bien que Mauro, en l'occurrence, n'a pas de vocation. Oui. Il est conduit à la cuisine à la fois par un goût très clair pour la cuisine, pour même l'alimentation en général. Mais surtout, vous parlez de la culture, de la commensalité qu'il a chez lui, dès le départ. L'extrême importance que sa famille accorde au repas, au moment du repas, moment de convivialité, moment de goût. Et ça, on le retrouve chez vous, Alexandre Gauthier, cette culture de la commensalité. Bon, votre père était cuisinier, mais c'est tout un ensemble, ça.
Mais je pense que c'est actuellement une société un peu bizarre où on est surconnecté, être capable de se poser et de discuter autour d'une table, en famille, entre amis, passer du temps. C'est de plus en plus rare, pour pas dire ça devient de plus en plus inexistant quand dans les foyers les enfants font leur plateau de télé et vont regarder la télé dans leur chambre. Alors faut pas caricaturer, mais c'est quand même quelque chose de très commun. Et donc et la table est importante, ce plaisir, le moment en tous les cas, la table, mais surtout le moment, être capable de déconnecter de son quotidien pour se concentrer. Alors à une cuisine, d'accord, peut-être parce qu'elle vient comme un outil presque, mais surtout se connecter à l'autre, se reconnecter à l'autre et se concentrer à l'autre et avoir des émotions et des sensations et après une mémoire autre que celle qui est dans notre iPhone, vous voyez, et qui n'est pas qu'une photo qu'on oublie et fait ah oui je suis parti en vacances, non, avoir une mémoire sensorielle, émotionnelle, gustative, c'est très important.
Donc vous demandez à vos clients de couper leur téléphone avant de s'asseoir?
C'est-à-dire que je pense qu'on peut prendre des photos, mais c'est toujours bien de prendre des photos des enfants, de la grand-mère à table en famille, et que ça, c'est quand même des moments importants. Que le repas, évidemment, on est flatté quand nos plats sont pris en photo, mais la question, c'est à quel moment ces photos nous empêchent d'être présents. Vous voyez, à quel moment? C'est quand on va au concert et qu'on filme un concert. Pour moi, c'est quelque chose d'aberrant. Vous venez vivre un moment, sinon faut acheter le DVD. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais pour rebondir tout à l'heure, si je peux me permettre sur Maëlys et Caroline, ce que vous disiez, c'est, je pense que c'est un métier qui, il y a une violence. Il y a une violence qui est, que vous considérez comme violence, mais je pense que, entre l'ecclésiaste qui est, un moine, je le dis tout à l'heure, c'est un sacerdoce. cette rupture au monde et qui est un moment pour se concentrer sur lui-même, pour arriver à une certaine perfection intellectuelle et spirituelle, ou après un grand sportif, un match de rugby, est-ce que personne ne s'offense des coups que ces hommes se mettent dedans? Et mais tout ça pour arriver à un niveau d'excellence. J'avoue, chez moi, mes équipes démarrent à 8h30 et à 8h moins le quart, ils sont tous là déjà. Et c'est comme ça. Et je leur dis, mais c'est juste parce qu'ils sont, il y a une sorte comme ça d'entraînement où bizarrement, c'est un métier, mais pour certains, c'est plus qu'un métier.
Oui, voilà.
Et donc, il y a un engagement personnel. C'est pour ça que vous dites que tout le monde est en CDI et que c'est toujours les cuisiniers qui partent.
Et jamais
le patron qui les met dehors. Et c'est d'une justesse totale ce que vous dites, c'est énorme. Mais les hommes, ils viennent vivre à la Grenouillère un projet de 6, 12, 18 mois. 24 mois vers moi. Puis après j'ai les solides qui sont avec moi depuis 3, 4, 5, 6, 12 ans pour certains et qui eux font partie de cette machine. Mais on croise plein de jeunes et qui sont là pour donner et apprendre en même temps. Nous on leur donne tout, ils nous donnent tout. Il y a une sorte comme ça de voilà et le tout n'est pas que pécunier.
Oui, mais ça, aussi ce que dit Mauro. La plus grande violence, c'est que la cuisine exige qu'on lui sacrifie tout, qu'on lui donne sa vie. Et ça, c'est effectivement la dimension de la passion avant d'être un métier.
En fait, ce qui était surprenant pour moi, c'était aussi l'idée qu'il y avait dans cette histoire de restaurant une dimension quand même entrepreneurial, parce que lui, quand il crée la belle saison, il faut quand même que ça fonctionne. Il y a des gens qui vont venir déjeuner et dîner. Donc, il faut que ça tourne.
Il crée la belle saison à 24 ans.
À 24 ans.
Et il s'associe avec son
père qui le l'aide. Et en fait, là, pour le coup, il y a cette dimension-là, mais qui vient croiser l'idée que cette activité, c'est pas n'importe laquelle, et qu'il y a quand même, il y a la dimension de la création, la dimension de l'art. Et lui, il est pas du tout détendu, Mauro, avec cette histoire de cuisiner. Il y a quand même chez lui cette passion, et je pourrais même dire ce goût de l'absolu. C'est quelqu'un qui a un rapport très absolu avec ce qui doit sortir de sa cuisine. Et du coup, il y a une intransigeance qui aussi rayonne sur des rapports sociaux qui ont lieu dans les cuisines. Et c'est vrai que c'est pour ça que cette histoire de violence, elle est compliquée, parce que ce qu'il est, il y a évidemment de l'intolérable, de l'inacceptable, notamment les jets de projectiles, les violences physiques, mais il y a aussi cette violence insidieuse qui, alors, pour le coup, m'a totalement étonnée et sur lequel je me suis beaucoup concentrée, c'est cette histoire de la fatigue, de l'épuisement, de la fatigue, et notamment...
Il tient 4 ans, hein, en 2012 il s'arrête et il vous dit « je suis crevé, je suis épuisé, je suis mort ». Il a 28 ans, je suis mort.
Et là, c'est vrai que quand on réfléchit bien, lui, c'était un restaurateur qui travaillait seul. Après, il a embauché un commis et un plongeur. Mais au départ, il est seul. Donc, il y a les appros, ça commence à 8 heures. Ensuite, il cuisine. Finalement, il a cette pause entre 15 et 18 heures l'après-midi, dont il ne peut pas faire grand-chose, parce que c'est une heure qui est, bon, ses amis bossent, etc., qui est un peu courte, et puis ça repart après jusqu'au soir. Et ça m'a étonné. Et ça, c'est une violence qui ne peut être acceptée que parce qu'on a cette espèce d'intransigeance liée au goût de l'absolu, à la passion. Et par ailleurs, dans ce livre, ça m'a fait vraiment penser ce que vous disiez. Moi, j'ai fait également ce parallèle avec les sportifs. Parce que c'est vrai qu'on ne se demande pas comment un jeune athlète sacrifie finalement sa jeunesse, ces années entre 20 et 30 ans, à discipliner, à contraindre son corps pour gagner des médailles et finalement être le plus rapide, le plus fort, etc.
Comment on tient, Alexandre Gauthier?
Ouais.
Par la passion.
Oui, on va dire par la passion, mais c'est exactement ça. Ce que Mauro vit à la belle saison, c'est que quand même son restaurant sort du lot. Et qu'il y a combien de restaurants qui rêveraient de sortir du lot, qui ne sortent pas du lot? Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais est-ce que l'engagement est total dans ces maisons? L'engagement de Mauro est total. Il y va, il n'a pas le choix. S'il a le choix, il a le choix de prendre le risque que ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, c'est d'autres soucis. Lui, il prend la décision d'arrêter parce que ça marche trop et qu'il est contraint au succès. Le succès le contraint. Donc c'est très intéressant. Mais il y a combien de restaurants et combien de cuisiniers en France? Il y a, bon, je suis d'accord, hein, il y a cuisinier que tout le monde n'a pas forcément le mot talent ne veut pas dire grand-chose, mais en tous les cas, cette capacité, voilà. Mais
c'est, à se réinventer
mais,
aussi.
Mais en, dans l'écriture, c'est pareil, je pense, en littérature. Je pense que tout le monde ne sort pas du lot, et c'est très compliqué. Et voilà, mais qu'à un moment donné, il faut être ultra exigeant avec soi-même pour réussir à sortir quoi que ce soit, de toute façon. Quand on essaye d'accrocher un niveau d'excellence et de justesse, et cohérent, et d'une cohérence, voilà. Donc ça, c'est assez, voilà. Alors comment on tient, c'est, voilà, ce métier, en tous les cas, qui existe depuis belle lurette, cuisinier, et de quand même de plus en plus social, mais cet engagement, voilà, dans une société où justement on refuse beaucoup de choses, où l'engagement est assez, pas forcément vu de la bonne façon tout le temps, parce que tout de suite on a l'impression que on est attrapé ou manipulé, mais qu'il y a des engagements qui peuvent être, qui peuvent venir d'hommes et de femmes naturellement. Alors certes, des fois pas à leur compte. Moi, j'ai des hommes à côté de moi qui sont presque plus acharnés que moi sur le travail et limite plus acharnés ou même peut-être avec moins de tolérance sur certains sujets. Et donc voilà, donc c'est ça qui est amusant, c'est qu'à un moment donné jusqu'au boutiste ou envie d'aller plus loin en tous les cas.
Mais là, on va peut-être passer de l'autre côté, du côté de la salle, disons, devant de ce que vous offrez à vos clients, Alexandre Gauthier. Est-ce que cette façon de tenir, cette exigence, elle n'est pas aussi portée par, en l'occurrence pour vous, cette façon perpétuelle de rechercher des recettes nouvelles, différentes, d'offrir de la créativité, pour reprendre le terme de Maëlys de Kerangal, d'aborder aussi la cuisine par un autre biais, en bousculant aussi les codes de ce que vous nous offrez à manger, d'avoir des idées, de chercher cette créativité, cette inventivité permanente.
Mais je pense que la cuisine comme le restaurant, il n'y a pas de règles. C'est un espace de liberté et d'expression qui ne dépend que de la personne qui l'occupe et qui est en action dans cette maison ou dans ce lieu. Et je revendique que la Grenière est un lieu de liberté d'expression. Pour ne pas dire un lieu libéré. Alors évidemment, derrière, ça bosse. Il n'y a rien sur rien. J'avoue que les garçons et les filles avec moi travaillent dur. Mais de la même façon que un des patrons, j'aime pas le mot, mais un des je ne travaille qu'avec des gens que j'aime. J'aime ces hommes et ces femmes qui sont autour de moi. Et je m'intéresse aussi aux clients. C'est-à-dire qu'il y a la Grenouillère, mais j'ai aussi deux unités à côté, deux autres annexes, qui eux s'adressent à
Parce qu'il en faut pour toutes les bourses.
Mais oui, non, mais surtout à tous les moments. C'est-à-dire qu'il y a du quotidien et de l'exceptionnel. Au quotidien, on mange quoi entre une pause déjeuner quand on est au bureau. Et est-ce que ça, c'est pas mon travail de cuisinier que de m'intéresser, certes, à toutes les bourses, mais aussi à tous les instants et à tous les moments du quotidien et de l'extraordinaire. Et à un moment donné, faire que peut-être qu'il y a des restaurants du quotidien qui sont des moments de l'extraordinaire pour certains. Et aussi créer la passerelle pour que ça puisse un jour dire la Grenouillère, c'est pas pour moi. Et puis au fur et à mesure, peut-être qu'en faisant sur leur chemin, ils diront la Grenouillère, c'est peut-être pour moi. Et ils viendront, ils pousseront la porte. Et on s'intéressera à eux. Et on les accompagnera de la même façon qu'un habitué qui vient peut-être une fois par mois ou une fois par semaine à la Grenouillère. L'important, c'est de donner et essayer de créer cette parenthèse. Si on arrive à avoir un avant et un après un repas chez moi, je suis le plus heureux des hommes.
Et vous pourriez mettre aussi Alexandre Gauthier dans vos cuisines pour donner du cœur à l'ouvrage, à vos cuisiniers, cette musique de Yoshi Horikawa, Cook from South, qui est faite avec des ustensiles de cuisine, figurez-vous. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus au micro de La Grande Table. Je rappelle le titre du livre de Maëlys de Kerangal, Un chemin de table paru au seuil, mais il se trouve, Maëlys, que vous avez accepté de rester dans la deuxième partie pour parler de faits et de fiction, puisqu'on lit dans votre livre que le cuisinier le plus doué, le plus inventif, le plus juste n'est pas forcément celui qui métamorphose le produit, mais peut-être celui qui le restitue le plus intensément, et que ce sont des questions qui touchent également à votre métier d'écrivain. Nous allons parler de tout ça avec notre invité tout à l'heure en dernière partie. Merci beaucoup Alexandre Gauthier.
Merci Caroline.
Je rappelle que vous officiez à la Grenouillère, à la Madeleine sous Montreuil, vous avez également deux restaurants par ailleurs, et qu'on peut lire de vous, ou plutôt contempler, La Grenouillère par Alexandre Gauthier, cuisinier, un livre merveilleux comme un vrai objet d'art qui a paru aux éditions La Martinière. Merci encore à tous les deux.
Merci.